Chapitre 60. Le centre du don des corps était enfoncé dans la forêt, au bout d'une route peu large où, sur certaines sections, deux véhicules n'auraient pas pu se croiser. Le ciel tonnait, la pluie calme du début d'après-midi avait viré au déluge. Des éclairs diffus illuminaient les arbres par à-coups. L'électricité était encore là, crépitante, menaçante. Charcot se serait cru dans le roman de Mary Shelley, ou dans l'une de ses adaptations cinématographiques, il ne savait plus. Le déchaînement des cieux le soir de l'expérience, le fracas des gouttes sur la toiture du laboratoire lorsque Frankenstein avait ramené sa créature à la vie dans un puits de lumière et d'étincelles, tout y était. Le bâtiment se dessina dans le faisceau des phares, aussi sinistre qu'on pouvait l'imaginer, une sorte de cube en béton qui faisait penser à un bloc de l'ex-URSS. Il était protégé tout autour par des clôtures grillagées étranglées par les ronces, sans doute là pour garder à distance les familles qui se baladaient à proximité sur les sentiers de randonnée. Le parking de schiste rouge où luisaient des flaques était vide. « C'est fermé !» dit Lucie en avançant sa tête vers le pare-brise balayé par les essuie-glaces. « Et pour tout te dire, tant mieux. Pas envie de mettre les pieds dans cet endroit glauque. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. » Charcot scruta les fenêtres avant d'acquiescer. Lucie avait raison. Finalement, ce n'était pas plus mal. L'idée d'une bonne douche chaude le hantait. « Ok, on reviendra demain. » Il braqua sur la droite pour opérer son demi-tour en une seule fois et reprit la route en sens inverse. D'abord, il roula une centaine de mètres à un rythme normal, puis au ralenti, lorgnant vers le bas-côté. « Qu'est-ce que tu cherches ?» l'interrogea Lucie. « Ça !» Il venait de dénicher un chemin de traverse accessible, dans lequel il s'engagea. Ainsi dissimulé, il coupa le moteur et les phares. « J'ai vu une lueur dans le bâtiment, » dit-il en remontant la fermeture de son blouson. « Je l'ai remarqué quand j'ai fait le demi-tour. »« T'as dû te tromper, il n'y avait personne. Pas de voiture, rien. C'est certainement à cause de tes phares ou des éclairs. »« Non, j'en suis sûr. » C'était au premier ou au deuxième étage. Quelqu'un se baladait avec une lampe. Sans lui laisser le temps de répliquer, il sortit bille en tête et claqua la portière. Lucie le rejoignit d'un pas vif. La pluie s'écrasait sur le sol et dans les branches. La forêt semblait enrhumée, ses poumons craquaient. Les prémices d'une violente pneumonie.
On ne devrait pas faire ça, Franck. On reviendra demain pour fourrer notre nez dans la paperasse, les ordinateurs et interroger le responsable.
Il y a un type qui se planque là-dedans en dehors des horaires d'ouverture. Je veux savoir qui il est et ce qu'il fout là. D'autant que ce n'est peut-être pas anodin que ça se produise pile au moment où on se pointe.
Lucie capitula. Ils progressèrent en silence jusqu'aux abords du parking. Frank se positionna derrière un imposant tronc et observa le bloc avec l'acuité d'un rapace nocturne. Le cœur de l'orage approchait à grande vitesse. À chaque coup de semonce, la terre tremblait. Les zébrures aveuglantes déchiraient la nuit. Malgré tout, les deux policiers patientèrent au pire endroit possible, sous un arbre.
« Il n'y a rien ! On est en plein milieu d'une forêt avec des éclairs partout !» s'écria Lucie d'une voix peu assurée. « Fichons le camp d'ici avant de finir comme des saucisses grillées !»
Il fallait bien le reconnaître, ça devenait dangereux. Charcot allait se résigner quand, soudain, au premier étage, il perçut la faible lueur, l'espace de quelques secondes, comme si on avait ouvert et fermé une porte et que dans l'intervalle, la lumière avait filtré.
« T'as vu ?»«
J'ai vu, mais ça a forcément remarqué notre passage tout à l'heure. »«
Et ça doit penser qu'on est reparti. Suis-moi. »
Elle comprit que Frank n'en démordrait pas. Il s'élança dans ce qui était désormais de la boue pour atteindre l'entrée. Une solide grille métallique en barrait l'accès.
Merde !
Sans se décourager, il dénicha un renfoncement sur la gauche du bâtiment. Là, au bas d'une pente, se dressait une vieille porte de garage, l'endroit où les pompes funèbres déposaient les défunts. Alors qu'un nouveau choc ébranla la terre, il tourna la poignée. C'était verrouillé. Mais vu la vétusté du système, Il sentait qu'en forçant légèrement, il y eut un craquement. Il leva le battant pour se faufiler en dessous. Un instant plus tard, Lucie le rejoignait à l'intérieur et il remit tout en place au ralenti pour éviter de faire du bruit. Le fracas de la pluie les couvrait, mais si l'intrus avait entendu la voiture ou vu les phares, il devait être à l'affût.
« C'est de la folie !»
murmura Lucie en essuyant l'eau qui ruisselait sur son front.
« Mets ton portable en silencieux. »
Elle obéit. Dans la foulée, ils sortirent leurs armes. Avec la lampe de son téléphone, Charcot éclaira l'espace. Une voiture à la carrosserie déplorable était garée en marche arrière. Les traces d'eau au sol ne laissaient aucun doute. Elle avait été planquée ici par l'individu qui errait à l'étage. Il jeta un œil à travers la vitre, côté passager. Un vrai Capharnaüm, déchets sur les sièges, couverture entassée, canette de bière vide et une méchante couche de poussière sur le tableau de bord. Bientôt, ils arrivèrent dans un couloir intégralement carrelé où se trouvait un large ascenseur, un monte-sujet dans le jargon, aux portes métalliques cabossées. Charcot imaginait les coups de chariot sur la tôle, les cadavres bousculés sur les tables à roulettes lors de leurs déplacements chaotiques. Une odeur subtile planait dans l'air. Ça ne sentait pas à proprement parler la mort, mais un mélange de caramel et de vieilles gibecières de chasseurs. Au fond, un virage, et en face, une cage d'escalier noire, peu engageante, genre gueule de HLM. Dans les morgues, on descendait les corps dans les sous-sols. Ici, on les emmenait au contraire vers le haut. Ils commencèrent à monter, sans lumière, d'un pas lent. La température était glaciale. À un moment, Frank se retourna et posa la main sur le bras de sa femme pour qu'elle s'arrête. Leurs tympans frémirent. Un bruit sec, régulier, qui vibrait et venait de partout, de nulle part. Et ça remuait les tripes. Tchac, tchac, tchac. L'écho dura une dizaine de secondes. Puis plus rien. Frank n'avait aucun doute. Il s'agissait d'un hachoir qui s'abattait sur de l'acier. On découpait de la chair. Il voulait éviter à Lucie de tergiverser, alors il lui lança tout de go, premier ou deuxième étage.
« Je n'en sais rien. Le premier, je dirais. Mince, Frank, il se passe quoi, là ?»
Quand ils atteignirent le palier, ils poussèrent une porte coupe-feu. Nouveau couloir, nouveau tunnel de carrelage. Le silence était retombé sur le bâtiment. Charcot y allait de son faible éclairage, et ce qu'ils découvrirent était à peine croyable. Le long des murs, des poubelles pleines à craquer, déchets à risque infectieux, des draps en tas maculés de taches sombres, des étagères qui encombraient le passage avec des cartons de matériel et de produits chimiques dont certains devaient être dangereux. Solvants, chlorure de zinc, gants en butyl à manches longues, visière anti-projection. Progresser ici sans rien effleurer, relevé de l'impossible.
C'est leur territoire, souffla Charcot. Fais gaffe où tu mets les pieds.
Lucie avait compris qu'il parlait des préparateurs psychologiquement fragiles, d'après Karine Millot. Qu'est-ce que ça signifiait, psychologiquement fragile? Style Norman Bates dans Psychose ou Jack Torrance dans Shining? Dans les deux cas, du lourd. Ils franchirent les obstacles en prenant garde de ne pas se blesser et de ne rien renverser. Plus loin, ils entrèrent dans une laverie. Des alignements de machines aux hublots gigantesques, des rigoles d'évacuation noires de crasse et de graisse, et toujours ces petits carreaux jaunâtres effroyables qui recouvraient toutes les surfaces, comme dans les abattoirs. Charcot avisa une porte latérale entrebâillée. Il pénétra dans une autre pièce, le pistolet brandi. Des casiers métalliques, des bancs en bois, des douches communes. Des vestiaires à l'ancienne imprégnés d'odeurs rances, transpiration, sébum, sang. L'endroit sans doute où depuis des décennies le personnel s'équipait avant de passer la journée au milieu des viscères. Des vêtements étaient accrochés à l'un des porte-manteaux. Jeans noirs, pull en laine, grosse chemise de bûcheron, une très grande taille. Le chef de groupe pensa au colosse des catacombes, à celui qu'ils avaient vu sur les images de la caméra de l'abattoir. Il fouilla dans les poches. Vide, hormis un paquet de cigarettes et un briquet.
Franck !
Lucie pointait le fond du casier qu'elle venait de découvrir et qu'elle éclairait avec son propre téléphone. Son visage n'était que terreur. Charcot se posta près d'elle et découvrit un collier suspendu entre des photos de cadavres de femmes nues. En guise de perles, une dizaine d'oreilles brunes recroquevillées telles des champignons déshydratés. Lucie n'était pas loin de vomir.
On devrait foutre le camp et appeler du renfort.
Malgré son dégoût, Franck s'approcha. Il observa les clichés un à un. Des faces creusées, déformées par la mort. Des ecchymoses bleues, rouges, violettes sur les corps meurtris. Malheureusement ou heureusement, Emma Dotti n'y était pas. Soudain, un bruit d'engrenage en provenance du couloir leur parvint, suivi d'un ronflement. Le commandant se précipita. 3 mètres devant, sur la gauche, une diode indiquait que le monte-sujet s'activait. La cloison tremblait légèrement. Impossible de savoir s'il descendait ou s'il s'élevait. Franck s'immobilisa à 3 pas de la double porte défoncée, en apnée. Lucie se colla à lui. Ensemble, ils pointaient leurs armes, telles des braqueurs de banque.
« Et s'il se tire par en bas ?»
murmura Lucie. « Il va venir rechercher ses fringues. » Roulement de câbles, grincement strident, puis arrêt. Là, juste devant eux, une épaisseur de métal les séparait de l'individu. Au ralenti, les portes s'ouvrirent. Quand l'intérieur se dévoila, Franck écarquilla les yeux, tandis que Lucie reculait, la main devant la bouche, jusqu'à heurter le mur derrière elle. Sur le plancher, Marc Victor les fixait d'un air béat, les paupières mi-closes, ses cheveux frisottants plaqués sur son front. Sa lèvre inférieure pendait comme un vieux pneu, attiré par la gravité. À la base de son cou, des faisceaux de nerfs, de veines, d'artères baignaient dans une flaque de sang. De Marc Victor ne restait que la tête.